Bonjour, ça va bien? Hey, je suis contente d'être en avant ce matin. Vous m'avez manqué. Est-ce que vous êtes ennuyée de moi un petit peu? Oui? OK. Merci. Je vais juste mettre mon PowerPoint parfait. Je suis en train de le suivre d'ici, là, en même temps. Parce que comme ça, je me perds pas et je suis capable de lire. Mais tout d'abord, je suis vraiment contente de vous voir. Je suis vraiment contente de pouvoir partager ce message aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, tel que promis, voici la deuxième partie. Mais j'ai un peu changé le titre, vous allez le voir, parce que c'est mon habitude d'un peu être à l'écoute vraiment du Seigneur pour voir qu'est-ce qu'il y a pour nous ce matin. Puis ça a un petit peu changé de direction, mais ça reste toujours avec Joseph. Inquiétez-vous pas, là, j'ai pas changé de personnage biblique. Non, c'est ça. Mais j'ai juste dormi 2 heures parce que l'inspiration était vraiment forte. Mais je suis vraiment contente parce que le Seigneur est bon. Mais avant de commencer, je vais juste vous montrer des photos de la retraite du G2. Alors, vous savez, on a eu une retraite il y a 2 dimanches. On a survécu. Mais plus que ça, là, ça s'est vraiment bien passé. On peut voir quelques photos avec les ados. Je pense qu'on était comme 13 ados. C'est quand même beaucoup, 13, ouais. Quand même beaucoup, ça s'est super bien passé. Tout le monde était vraiment content. Il y a des amitiés qui se sont formées. Puis c'est vraiment un temps bénissant, encore une fois. Mais les Tracy sont pas là, mais Andrew, il est là au nom des Tracy, là. Alors, on les remercie pour leur hospitalité au chalet. C'est vraiment le fun, alors on peut voir ici. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun, c'est que on a eu des changements par rapport à la personne qui devait partager le message vraiment dernière minute. Puis finalement, le Seigneur a écouté et nous avons eu le directeur de Jeunesse sans limite du Kenya qui a apporté le message la fin de semaine. Puis ça, c'est vraiment comme une opportunité d'une vie, là. Je veux dire, c'est pas tous les jours qu'on peut rencontrer quelqu'un comme ça. Puis encore moins l'avoir pour une fin de semaine. Alors ça, c'était vraiment bénissant. Puis juste merci pour votre support, merci pour vos prières. C'était vraiment, vraiment des beaux moments. Puis je sais pas si on voit là, mais en tout cas, les jeunes se sont pris pour des bûcherons. David les a autorisés à avoir une hache puis à couper un arbre. Mais là, on voit juste... Toutou, là, avec une hache en train de faire tomber un arbre. Puis je pense que vous avez fait tomber un arbre, non? Vous l'avez-tu fait tomber? Oui? OK. Plusieurs. Oh, my God. Je n'étais pas là. Mais ils ont eu du fun. Alors, oui, on a vraiment hâte de pouvoir planifier la prochaine retraite. Puis merci aux leaders aussi qui ont pris le temps de conduire les jeunes puis de se déplacer. C'était vraiment... Puis merci à la confiance des parents puis au soutien de vous. Alors, bon, je vais continuer avec le message d'aujourd'hui. Alors, j'ai changé le titre, comme je l'ai dit. Le plan de rédemption de Dieu pour la vie de Joseph. Alors, j'ai relu l'histoire de Joseph, puis je trouve que c'est tellement intéressant parce qu'à chaque fois, il y a comme quelque chose de nouveau qui ressort, puis des éléments que je me dis, « Hey, écoute, moi, je devrais suivre un peu le modèle de la vie de Joseph. » Parce que c'est vraiment inspirant. Puis je me suis dit oui à la réconciliation, qui était d'abord mon thème principal, mais il y a tellement d'éléments qui amènent à la réconciliation. Puis dans le fond, tout rentre sous un même... titre qui est « Le plan de rédemption de Dieu pour la vie de Joseph ». Alors, c'est vraiment ça aujourd'hui, le thème que j'ai pour vous. Je vous avertis, j'ai 45 pages de PowerPoint, mais je n'ai pas de notes. Alors, c'est vraiment que je vais suivre le PowerPoint. Je suis vraiment, vraiment, vraiment là, contente. Mais je vais juste prendre le temps de prier avant de commencer, puis vraiment remettre ce message dans les mains du Seigneur. Puis, c'est ça, alors prions. Merci Seigneur pour ce temps, merci Seigneur pour cette journée, merci Seigneur pour ton plan de rédemption pour nos vies. Et merci Seigneur, je sais que tu vas nous parler à travers le message d'aujourd'hui. Et Seigneur, je te demande vraiment de nous donner des cœurs de réceptifs et vraiment que tu puisses toi parler au travers de moi et que ce soit ton message et que tu sois glorifié à travers ce message. Et c'est en ton nom Seigneur que je prie. Amen. Alors, on va faire un petit retour sur le message dernier, que j'ai fait l'été dernier. Alors, premièrement, on a vu que Dieu est plus grand que les complots de mort contre Joseph, parce qu'on s'est mis en contexte. Ses frères l'ont vendu, ils voulaient le tuer, finalement, ils l'ont vendu comme esclave. Vraiment pas le fun comme situation. Puis par la suite, lorsqu'il était vendu comme esclave, mais la femme, justement, de son maître a fait des avances, puis finalement, elle a fait des fausses accusations contre Joseph. Puis là, ça, c'était vraiment pas le fun pour lui. Même si lui avait gardé son intégrité, mais il y a eu des fausses accusations contre lui. Puis par la suite, on dit que Dieu est plus grand que l'oubli des hommes. Parce que si vous vous souvenez, lorsqu'il a été mis en prison, il a rencontré 2 hommes, n'est-ce pas? Il a interprété 2 rêves. Puis, il avait dit justement au responsable des boissons, « Souviens-toi de moi. » Mais il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, pas dans le temps que nous, on pensait qu'elle allait arriver. Alors ça, c'est une petite mise en contexte de qu'est-ce que j'avais partagé le message dernier, alors que les plans de Dieu sont plus grands que les plans de l'homme, des hommes. Alors, j'ai transformé ça pour la deuxième partie, c'est que oui, toujours, les plans de Dieu sont plus grands que ceux des hommes, mais le plan de rédemption de Dieu, nous allons voir vraiment le plan de rédemption de Dieu pour la vie de Joseph, qui est en fait un plan de rédemption pour tous. Poursuivre. Alors, tout d'abord, je veux juste mentionner que je vais vraiment ressortir des observations par rapport à la situation, l'histoire de Joseph, une fois qu'on se souvient de lui. Alors, je vais juste commencer, en fait, avec le premier point d'observation, c'est le moment parfait. Alors, je vais lire ici, Genèse 41, versets 1 à 4. « Au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. » Alors, 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le Pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. 7 épis gros et beaux montaient sur une même tige. 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Est poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gros et pleins. Puis le Pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le Pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Hey, c'est incroyable, hein? Après 2 ans, le responsable des boissons se souvint de Joseph. Ça a pris 2 ans. Puis c'est vraiment, lorsque je lisais le texte, j'ai dit, hey, voyons, 2 ans, c'est long. Quand tu es en prison, là, 2 ans, c'est quand même long. Puis juste 2 ans en général, ça peut passer vite, mais je pense qu'en prison, ça passe pas super vite. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'expérience, là, mais je peux imaginer. Non, c'est ça, j'espère, ils ont dit. mais alors, qu'est-ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a vraiment des éléments intéressants ici. Quand je lisais, je me suis dit, tu sais, aux yeux de l'homme, lorsqu'on lit 2 ans, ça paraît vraiment longtemps. Mais à la fin de la journée, le temps de Dieu est parfait et c'est arrivé vraiment dans le temps de Dieu. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important à ressortir, c'est que le temps de Dieu est parfait. Puis peut-être, nous, on est habitués à vraiment que tout soit vite ou instantané. Puis je pense que ça, c'est du moins moi, là. Je suis comme, Seigneur, pourquoi ça n'arrive pas plus vite? Pourquoi est-ce que ça prend toujours du temps? Mais ça arrive toujours au bon moment. Puis je pense qu'on peut tous se souvenir d'un moment où est-ce qu'on a dit, les choses devraient se passer plus vite, mais tout d'un coup, c'est comme si les choses se débouchent, puis les portes, ils s'ouvrent, puis vraiment, tout arrive comme spontanément, mais vraiment dans le temps de Dieu et à la manière de Dieu. Puis je trouve que ça, c'est tellement réconfortant. Ensuite, qu'est-ce qui est important à saisir par rapport à cette première partie où est-ce que le Pharaon raconte justement ses rêves? C'est l'importance de saisir les opportunités que Dieu met devant nous. Je trouve que c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée. Je n'avais pas vraiment porté attention vraiment à le fait de saisir les opportunités. Alors, dans Genèse 41, 14, ça dit, « Le Pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le Pharaon. » Il y a eu une opportunité, n'est-ce pas? L'opportunité de sortir de prison et de justement rencontrer le Pharaon. Tu sais, on peut dire, ça peut être débattable, là, est-ce qu'il y avait vraiment le choix vraiment d'y aller, mais tu as toujours le choix, en fait. C'est sûr que je pense, dans son cas, s'il ne faisait pas, il risquait la mort, mais je pense que c'était vraiment une opportunité. Il l'a saisi, il s'est présenté, puis il a vraiment été devant le Pharaon, prêt et disposé. Il était prêt, puis il a saisi l'opportunité. Et ma question ici, c'est, lorsque Dieu nous ouvre des portes, est-ce que nous saisissons ces opportunités? Parce que dans le fond, c'est ça qu'a fait Joseph. Il y a eu vraiment une porte qui s'est ouverte pour lui de sortir de prison, rencontrer le pharaon. Ça, c'était une opportunité. Puis il l'a saisi. Il a dit oui. Nous, lorsqu'on se trouve dans des situations où est-ce que vraiment des portes y s'ouvrent, est-ce qu'on reste amer par rapport à ce qu'on a vécu? Ou est-ce qu'on va de l'avant et on saisit les opportunités qui se présentent? Parce que Joseph, il en a vécu des choses. Il aurait pu juste rester là en prison, boudé, parce que, bien évidemment, sa vie n'était pas vraiment fantastique. Mais non, il a saisi l'opportunité. Puis je pense que ça, c'est vraiment un élément important à soulever. Mais je pense qu'il est aussi encourageant pour nous. Ensuite, dans le plan de rédemption de Dieu, il y a aussi l'importance de donner la gloire et le mérite à Dieu. Puis je veux dire, parce que chaque fois qu'il y a des choses bonnes qui nous arrivent, ou quelque chose qu'on nous complimente ou on nous remercie, puis on dit « Hey, comme, merci pour qu'est-ce que tu as fait », est-ce qu'on donne, on prend le temps de glorifier Dieu? Je sais que par moments, moi, j'oublie. Puis je pense que ça nous arrive à tous. Mais Joseph, lui, il donne la gloire à Dieu et le mérite à Dieu. En fait, dans Genèse 41, versets 15 à 16, il dit, « Le pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer. J'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au pharaon, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. Ici, Joseph, là, il aurait pu dire, ben oui, comme c'est un don que le Seigneur m'a donné. Depuis que je suis vraiment jeune, je fais des rêves, puis en plus, je peux les interpréter. Puis je pense qu'il y a des gens qui peuvent le témoigner. Mais il n'y a pas une attitude arrogante par rapport à ça. Au contraire, il était vraiment dans l'humilité, puis vraiment dans le fait de donner gloire à Dieu, donner vraiment la place à Dieu dans son action. Lorsque la porte s'est ouverte pour lui, il a saisi l'opportunité au bon moment, mais lui, il a donné le mérite à Dieu. La première place est à Dieu. Puis je pense que ça, c'est important lorsqu'on est dans l'adversité, lorsqu'on se trouve par rapport à des situations, puis lorsqu'on fait des actions et que les gens remarquent ce qu'on fait, la gloire est à Dieu. Puis là, Joseph interprète les deux rêves du pharaon. Ça va être long, là, préparez-vous, mais c'est vraiment intéressant. Ça va être de la Genèse 41, versets 25 à 31. Joseph dit au pharaon, « Ce qu'a révélé le pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les sept belles vaches sont sept années et les sept beaux épices aussi. C'est un seul rêve. Les sept vaches décharnées et laides sorties après les premières sont sept années, tout comme les sept épis vides brûlés par le vent d'est. Ce sont des années de famine. C'est comme je viens de le dire au pharaon. Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. » Il y aura sept années de grande abondance dans tout l'Égypte. Sept années de famine lui suivront. Et on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'en apercevra plus de l'abondance dans le pays. Là, on continue au verset 32-36. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'il amasse sous l'autorité du pharaon du blé, des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Joseph prend le temps d'écouter le pharaon, d'interpréter avec l'aide de Dieu. Et vraiment, il met dans son interprétation Dieu au centre. Puis là, il annonce qu'est-ce qui va arriver. Puis c'est quand même incroyable parce que le pharaon, il a demandé aux magiciens, aux sages de toute l'Égypte d'interpréter. Personne n'a été capable, mais Joseph, parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en lui, il a été capable de l'interpréter. Alors moi, ma question, j'en ai plusieurs pour vous, là. Donnons-nous la gloire et le mérite à Dieu dans nos succès? Parce que Joseph l'a fait. Joseph y a toujours pris le temps de donner la gloire et le mérite à Dieu. Lorsqu'il interprétait le plan, en fait, les rêves du Pharaon, il disait, ça, c'est les plans de Dieu. Aussi, dans le plan de rédemption de Dieu, un élément que Joseph, que je trouve que Joseph, qui arrive à Joseph, qui est vraiment intéressant, c'est qu'il se, il fait connaître Dieu à travers de sa vie. Est-ce que nous, on fait connaître Dieu à travers de notre vie? Attendez, là, j'ai comme perdu un peu le fil de mes PowerPoint. OK. Alors, le Pharaon reconnaît que l'Esprit de Dieu est en Joseph. Alors, dans Genèse 41, 37 à 40, ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? » Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Et c'est incroyable, hein? C'est incroyable. Parce que Joseph, là, on s'entend, là, il y a quelques, j'imagine, au même moment, le matin même, peut-être il est encore prisonnier. Puis là, il se retrouve à être le responsable de la maison du Pharaon et que tout le peuple va obéir à ses ordres. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant dans ce passage-là, c'est que le Pharaon reconnaît l'Esprit de Dieu en Joseph. Puis il dit, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu? » Le Pharaon dit ça. Puis après, il dit, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Et ça, c'est Dieu en Joseph. C'est l'Esprit de Dieu en Joseph qui a accompli ça. Et c'est aussi grand et c'est aussi impactant que même le Pharaon est capable de le reconnaître. En fait, il n'a plus le choix que de reconnaître que l'Esprit de Dieu est en Joseph. Puis je pense que qu'est-ce qui est important aussi dans cette première partie qu'on a lue, c'est que Joseph, il y aurait eu plein d'opportunités aussi, ici. Il aurait pu tout simplement condamner le responsable des boissons pour avoir pris 2 ans avant de se rappeler de lui. Il aurait pu dire, « Hey, mais non, là, ça fait deux ans que tu es censé te rappeler de moi, puis c'est maintenant que tu te souviens de moi? » Puis il accepte d'interpréter les deux rêves du Pharaon sans demander quelque chose en retour. Il aurait pu dire, « OK, je vais prendre le temps d'interpréter tes rêves, mais en échange, je veux ça, 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 ou juste sa liberté. » Il aurait pu demander ça, mais il l'a pas fait. Puis ensuite, il fait connaître Dieu par son attitude. Le Pharaon peut voir l'Esprit de Dieu en lui. Ici, Joseph, là, il y a des caractéristiques que je pense qui sont vraiment intéressantes et qu'on devrait vraiment prendre le temps de voir si nous, on a ça dans notre cœur. Est-ce que nous, on condamne les personnes qui nous ont fait du mal et qui nous oublient? Est-ce que lorsqu'on rend une faveur ou on exerce les dons que Dieu nous a donnés, est-ce qu'on demande quelque chose en retour? Et est-ce que notre attitude fait connaître Dieu aux personnes autour de nous? C'est des bonnes questions, hein? Puis, il est évident que nous n'allons pas tous interpréter des rêves d'un pharaon. Peut-être dans vos rêves, là, je ne sais pas, mais dans la vraie vie, ça risque pas d'arriver. Mais, est-ce que nous sommes connectés à Dieu assez pour discerner les opportunités qui se présentent à nous, les portes qui s'ouvrent et les saisir? Est-ce que nous sommes assez connectés à Dieu pour saisir ces opportunités, mais aussi rendre gloire à Dieu? Ensuite, un autre élément, mon cinquième élément, c'est que chaque élément du cheminement de Joseph est important. Puis là, j'ai sorti un verset dans Romains que je trouve que ça rend très bien, en fait, dans ce que je voulais vous parler ce matin. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Joseph aimait Dieu. Et ça, ça fait toute la différence. Lorsqu'on aime Dieu, tout contribue à notre bien, conformément à son plan. En fait, Joseph passe de prisonnier préféré à gouverneur de l'Égypte. Dans Genèse 41, versets 41 à 44, ça dit « Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » C'est incroyable. Parce qu'il passe de fils préféré à esclave préféré à prisonnier préféré pour être le gouverneur de l'Égypte. C'est intense. C'est vraiment intense. Puis je trouve que c'est vraiment incroyable. Puis qu'est-ce qui est plus intéressant, attendez pour ma prochaine page, c'est qu'il passe de fils préféré au responsable de la maison de son maître. Parce que lorsqu'il était esclave, il était responsable de la maison de son maître. Puis ensuite, en prison, il devient le responsable des détenus pour ensuite devenir responsable de l'Égypte. Est-ce que vous voyez comme quelque chose de linéaire là-dedans? Ben oui, responsable. À travers ces différentes épreuves, clairement Dieu l'a formé, l'a forgé afin d'être responsable. Commençant de la maison de son maître à responsable des prisonniers, à être responsable de toute l'Égypte. Ça a été graduel. Lorsqu'on pense à l'histoire de Joseph, on dit « Ah, il est devenu responsable de l'Égypte. » Oui, mais ça a été graduel. Dieu l'a préparé pour être responsable de l'Égypte, graduellement. Son don a été développé graduellement. Et c'est la même chose dans nos vies. Tous les défis et victoires nous permettent de nous développer dans les dons que Dieu nous donne. Dans le cas de Joseph, il a pu développer ses dons de gouvernance dans les différents environnements où il se trouvait. Peu importe qu'est-ce que l'homme avait planifié dans la vie de Joseph, qui pouvait être mal, Dieu l'a rendu bon et vraiment l'a utilisé pour développer le caractère de Joseph. Ma question pour vous encore, qu'est-ce que Dieu a travaillé en vous lors des épreuves? Mon sixième point d'observation, c'est le plan de rédemption a un impact plus grand que la personne de Joseph. En fait, ça commence sur le plan personnel pour ensuite aller vers le plan familial, pour ensuite aller territorial. Alors, je poursuis ma lecture de Genèse 41. Le Pharaon appela Joseph, puis là, il l'appelle d'un nom que je ne suis pas capable de prononcer, mais... Merci. Ça veut dire, moi, je sais qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais juste pas le prononcer. Celui qui découvre les choses cachées. Ça, c'est le nom que le Pharaon lui a donné. Il lui donna une femme, Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Avant les années de famine, Joseph eut deux fils qui lui donna Asnath, fille de Potiphéra, le prêtre d'On. Joseph appela l'aîné Manassé, car il dit « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute ma famille ». Et il appela le second Éphraïm, car, dit-il, Dieu m'a donné des enfants dans le pays de mon malheur. Dans le plan de rédemption, Dieu apporte rédemption dans son titre. Il apporte rédemption dans ses relations personnelles en lui accordant une femme et des enfants. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement sur le plan personnel. Mais ça vient affecter aussi sa famille et le peuple d'Égypte, puisque Joseph gouverne l'Égypte et prépare le pays pour la famine. Puis évidemment, comme Joseph l'avait interprété du rêve du Pharaon, la famine a régné sur tout le pays. Puis là arrive l'impact familial. Puis là, j'aurais pu encore lire toute l'histoire des frères, mais c'est comme 4 chapitres. Alors, j'ai décidé de vraiment sortir les points importants, justement, de la rencontre de Joseph avec ses frères. Alors, les frères de Joseph se présentent en Égypte pour du blé, parce que évidemment, il y a la famine, ça les affecte, ils ont faim. Puis Joseph les reconnaît, mais il ne révèle pas son identité du tout. Joseph teste ses frères de différentes manières pour finalement révéler son identité et installer sa famille en Égypte. Ce qui m'amène à mon point de l'impact familial égale la réconciliation. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné l'ordre suivant avant de mourir. Voici ce que vous diriez à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le crime des serviteurs. » Ouh, je suis en train de perdre la voix. « Serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura à l'écoute de leur message. Ses frères virent eux-mêmes se jeter à ses pieds et dire, « Nous sommes tes serviteurs. » Joseph leur dit, « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Désormais, n'ayez donc plus peur. Je pourvoirai à vos besoins et à ceux de vos enfants. » C'est ainsi qu'il est réconfortant en parlant à leur cœur. Joseph, un étranger dont la vie a été transformée par la mauvaise action de ses frères, par la jalousie de ses frères, devient un étranger en Égypte qui change en fait absolument tout. Absolument tout. Puis, c'est ma question ici, c'est lorsque je dis ça, je dis, comment est-ce que nous, on laisse Dieu nous utiliser pour transformer notre entourage? Parce que Joseph, c'est ça qu'il fait. Joseph, en tant qu'un étranger, a un impact immense. La rédemption de la vie de Joseph a un impact sur tout un peuple. Ça ne se limite pas sur le plan personnel, ni sur le plan familial, mais vraiment, là, a une grandeur immense. Il devient le gouverneur de l'Égypte alors qu'il est un étranger. A un nouveau nom égyptien alors qu'il est étranger. À une femme qui est la fille d'une personne importante, alors qu'il est un étranger et qu'il était un prisonnier. Il a 2 enfants en Égypte. Dieu l'utilise pour sauver la vie de sa famille et son peuple. Lorsque Dieu œuvre dans notre vie, l'impact est majeur. Et ce n'est pas seulement en forme individuelle. Ça a vraiment un impact immense qu'on ne peut même pas imaginer. Le plan de rédemption de Dieu nous amène une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie a un impact sur tout notre entourage. Est-ce qu'on vous dit des fois, « Hey, il y a quelque chose de vraiment différent à propos de toi. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, là, mais je me sens bien à côté de toi. Puis, il y a quelque chose qui change, là, notre faire change. » Et ça, c'est qui fait ça? C'est Dieu. C'est Dieu en nous qui fait ça. C'est Dieu en nous qui transforme notre environnement, qui transforme notre cœur, qui transforme notre famille, qui transforme notre territoire. Dieu ne se limite pas seulement à une personne. Son impact est immense et on ne peut même pas imaginer. J'arrive à ma conclusion. Dieu transforme le mal des hommes pour accomplir sa volonté en son temps. Qu'est-ce qui m'a marqué dans ce que Joseph a dit à ses frères? Il dit, « N'ayez pas peur, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Souvent, quand on nous fait du mal, on se prend pour Dieu, puis on veut vraiment faire justice. Joseph était dans tout son droit de réclamer justice ou de dire tout simplement non à ses frères pour l'avoir justement vendu. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il les a accueillis, puis il leur a donné la nourriture, puis il les a établis en Égypte. Et il dit à ses frères que Dieu a changé ce que ses frères ont fait en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour justement permettre de les accueillir, pour sauver son peuple. C'est incroyable. C'est absolument incroyable comment Dieu transforme le mal qui est fait en quelque chose de bien, continuellement. Je pense que toutes dans notre vie, nous avons vécu des choses qui peuvent être vraiment marquantes et vraiment douloureuses. Mais je pense que lorsqu'on repose pleinement en Dieu et qu'on fait pleinement confiance en Dieu comme Joseph et on garde notre intégrité, je pense que ça fait absolument toute la différence. Puis à la fin de la journée, tout ce qui se réalise au travers de ces épreuves porte fruit. Et des fruits que les gens peuvent voir et qui peuvent dire, ça, c'est l'Esprit de Dieu en cette personne. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux que les gens, quand ils me voient, ils me disent, ah, ça, c'est l'Esprit de Dieu en Mylène. Alors, comment est-ce que Dieu transforme le mal qui nous a été fait, qui m'a été fait, en quelque chose de bien? Lorsqu'on pense à nos circonstances, est-ce qu'on est capable de voir comment Dieu a transformé justement ces choses absolument douloureuses qu'on a pu vivre, complètement injustes, en quelque chose de bien? La dernière fois, je vous avais partagé justement l'histoire de mon père avec son collègue, n'est-ce pas, qui avait été victime vraiment d'harcèlement au travail parce qu'il était immigrant, puis que maintenant, il y a un ami, il y a un frère. Ça, c'est une transformation immense. Alors, pour ceux qui n'avaient pas écouté mon dernier message, j'avais partagé, mon père, il travaille au musée, puis il y a un collègue qui vraiment l'harcelait, vraiment, de manière vraiment pas correcte, qui lui disait qu'il n'y avait pas sa place en tant qu'immigrant dans son travail. Puis, de fil en aiguille, mon père, il regardait des vidéos YouTube de prédication au travail, puis il partageait sa foi. Mon père, jamais gêné de partager qui il est comme personne et qui il suit et qui est seigneur de sa vie. Puis, je trouve que c'est tellement admirable. Dans une langue qu'il ne maîtrise pas pleinement, il le fait. Puis, il donne toujours gloire à Dieu. Puis justement, avec la pandémie, vraiment la peur qui s'est instaurée dans la vie de plusieurs personnes, mon père a vu justement que son collègue avait peur, puis a commencé à lui parler de l'Évangile. Il a saisi l'opportunité. Il a donné gloire à Dieu. On a pu voir Dieu à travers sa vie. Puis je trouve que c'est tellement admirable. Puis finalement, mais en saisissant cette opportunité-là, il a transformé la vie de son collègue, qui a accepté le Seigneur, qui est maintenant son ami. Ça, c'est comment Dieu transforme le mal en quelque chose de bien. Mais ça arrive quand on fait confiance à Dieu, lorsqu'on remet notre vie au Seigneur pleinement, parce qu'on sait qu'on est dans des bonnes mains. N'est-ce pas? Je suis toujours émue quand je partage l'histoire de mon père, parce que c'est incroyable. Mais je pense qu'il y a sûrement des histoires que vous portez, des histoires que vous avez. Mais ne soyez pas gênés de les partager. Parce que des fois, c'est juste encourageant de vous entendre. Votre histoire est aussi importante que celle de Joseph, peut être aussi encourageante que celle de Joseph. Alors, je vais prendre le temps de prier, puis vraiment remettre ça entre les mains du Seigneur. Puis je pense qu'après, j'inviterai le groupe de louanges à venir à l'avant. Alors, oui, merci Seigneur, parce que tu es le Rédempteur. Tu changes le mal en bien. Tu transformes les vies. Merci Seigneur d'être le Seigneur de nos cœurs et vraiment de prendre soin de nous. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et merci pour ce message et merci pour les réflexions que nous allons avoir en tant qu'individu, en tant qu'Église, en tant que communauté par rapport à être témoin de qui tu es. Seigneur, dirige-nous, aide-nous, et vraiment aide-nous à te faire pleinement confiance dans ton plan de rédemption pour nos vies. Et c'est en ton nom, Seigneur, que je prie. Amen.